il y a sans doute un vide énorme encore, qui est celui des populations civiles. C'est-à-dire, il y a très très peu de littérature dont le personnage principal serait la population civile. Alors que, encore une fois, c'est eux qui, les protagonistes principaux de la guerre aujourd'hui, ce sont les civils. En Syrie, ce sont les civils. En Irak, ce sont les civils. En Yougoslavie, les massacres, les génocides, la purification ethnique, tout ça a été commis contre les civils. Donc, ça montre une persistance, enfin, l'absence des civils dans le récit de la guerre montre d'une certaine façon, malgré les travaux de Norton Crewe, malgré les travaux d'Alexievitch, qu'il y a une persistance, en fait, de la séduction épique dans le langage, dans le récit de la guerre. Parce qu'évidemment, les populations civiles ne font pas acte de bravoure, hormis de continuer de vivre, elles ne font pas de choses spectaculaires, comme peuvent le faire un soldat, du moins un soldat tel qu'on le rêve et qu'on l'imagine. Voilà pour le petit topo introductif, pour justifier, en fait, pour me justifier à mes propres yeux même, l'idée de la légitimité à écrire sur la guerre, en tant que civil ayant connu la guerre du Liban entre 1975 et 1990. Je vais commencer par vous, avant d'en venir au projet auquel je travaille maintenant, par faire un vraiment très rapidement, je ne vais pas vous emmerder avec ça, parler des trois premiers livres que j'ai publiés. Donc ça c'est le premier, Défaut d'origine, ça c'est le deuxième, Terrain vague, et ça c'est le troisième, Un peuple anti. Tous les trois sont des romans, et il est marqué roman dessus. Le premier est un monologue intérieur d'un narrateur qui rentre chez lui après 10 années d'exil, dans un pays anciennement en guerre. Celui-là raconte, c'est le monologue d'un homme qui revient tous les jours dans un bâtiment en ruine, et qui raconte une journée qui se répète inlassablement. Celui-là met en scène trois personnages différents, dont l'un est un enfant, puis un adolescent, dans une espèce de pays en guerre qui n'est pas nommé. En fait, la particularité des trois livres est qu'ils parlent tous de la guerre, mais ne nomment jamais le lieu où elle se déroule. Donc, par exemple, lorsque mon premier livre est sorti, beaucoup de gens ont pensé que ça se passait en Yougoslavie. Et à l'époque, j'étais très content et je ne démentais pas la géographie qu'on me proposait. Je pensais que plus il y avait d'abstraction géographique et historique dans le livre, plus le livre pouvait accéder à une forme d'universalité. Et il y avait des raisons très concrètes à ça, que je vais rapidement évoquer sans trop détailler. Parce que... peut-être la première, c'est que entrer en littérature avec un matériau autobiographique, c'est presque se tirer une balle dans le pied. C'est-à-dire, on est immédiatement relégué dans la catégorie du témoignage, et donc qui est une catégorie moins noble, supposément moins noble que le roman. Alors que si on lit la littérature du XXe siècle, parmi les plus grands livres du XXe siècle, il y a des témoignages, ceux de Primo Levi ou de Erlan Chalamov, par exemple. Mais à l'époque où j'ai commencé à écrire, j'étais assez jeune, je pensais qu'il fallait absolument faire du roman, ou en tout cas faire semblant de faire du roman. Et faire semblant de faire du roman, c'est ne pas nommer le lieu où la guerre se déroule. Donc je pouvais très bien dire, ben, c'est un roman, il n'y a pas de fiction, il n'y a pas de matériau autobiographique, c'est purement inventé. Et bien sûr, ce qui est récompensé, c'est l'imagination, enfin, ce qu'on croit être l'imagination, et pas l'expérience personnelle. Deuxième raison, c'est que je pense que j'avais du mal, et j'ai encore du mal aujourd'hui, même si je me soigne, à me reconnaître, à reconnaître cette expérience-là comme la mienne. C'est une incapacité à la nommer, sans doute parce qu'elle s'est déroulée quand j'étais jeune. Donc, il y a une troisième raison, c'est que si je disais Beyrouth, dans mes livres, immédiatement dans l'imaginaire du lecteur occidental, vont déferler une quantité d'images, pour le coup, et de convenus et de lieux communs, qui, d'une certaine façon, orientaient trop la lecture du livre. Je le voulais plus universel. Et aussi, en disant Beyrouth, et en revendiquant le livre comme étant, peut-être pas un témoignage, mais un livre à base de vécu, comme dirait Claude Simon, j'allais d'une certaine façon être amené à me défendre d'être un arabe. Je vais vite. Je voulais éviter, pour diverses raisons, qu'on puisse dire de moi que j'étais un Libanais, donc un arabe. Je rappelle juste que les Libanais, en tout cas à l'époque où je suis arrivé en France, avaient la réputation soit d'être tous des hommes d'affaires véreux et pleins d'audace, soit des terroristes. Et il y a des raisons objectives à cela, puisqu'il y a eu des attentats commis en France, des otages enlevés au Liban. Donc, disons, l'image des Libanais en Europe n'était pas très flatteuse, et je ne voulais surtout pas être associé à... Donc, pour toutes ces raisons-là, j'ai préféré, dans mes trois premiers livres, ne pas évoquer à la fois le lieu géographique et me revendiquer comme étant... le narrateur réel, en fait, de ces livres. Même si le deuxième livre est peut-être là. Comment on fait ? Voilà. Je précise juste le deuxième livre, le monologue d'un homme qui revient chez lui, c'est lui. En fait, c'est un ancien combattant, un milicien d'un parti chiite. Qui a été dont la parole a été recueillie par une cinéaste libanaise. Et il apparaît, le titre du documentaire, c'est « Seul avec cette guerre ». Et je crois que c'est un des derniers personnages du documentaire. Et quand on le voit parler, il se gratte constamment la barbe, il a des tics, son élocution est un peu bizarre. Je pense qu'il est sous médoc, quoi. Et dans ce documentaire... qui a été tourné, je pense, à la fin des années 90, l'armée israélienne occupait encore le sud du Liban. Donc régulièrement, il y avait des bombardements et des opérations militaires. Et il disait qu'il éprouvait régulièrement le besoin d'aller dans le sud pour écouter le bruit des bombes et se sentir bien. Et je me suis dit, ben, en fait, qu'est-ce qu'il faut comme degré de folie pour être nostalgique ou mélancolique de cette violence-là ? Et donc j'ai imaginé la journée ou l'état mental de ce type-là. Et c'est peut-être mon livre le plus autobiographique, en fait. À force de ne pas nommer, en fait, je me suis interdit énormément de choses. C'est-à-dire de ne pas dire Beyrouth m'interdit de dire parti chiite, sunnite, chrétien, m'interdit de nommer tous les lieux de la guerre. Tous les partis politiques, toutes les figures politiques, tous les drapeaux, etc. C'est toute la réalité, en fait. La publication de mon dernier livre, dernier roman, celui-là, c'est en 2009, et aujourd'hui, j'ai publié deux livres accessoires, donc celui sur Kalachnikov et un autre livre avec Jérôme Ferrari sur l'image, sur la photographie. J'ai mis 10 ans, en fait, à essayer de trouver une solution, en fait, à l'espèce d'impasse dans laquelle je m'étais mise, c'est-à-dire de vouloir parler de la guerre sans me revendiquer comme témoin ou protagoniste de cette guerre. Alors, il s'est passé un truc qui m'a un tout petit peu facilité la tâche, si j'ose dire. Donc c'est évidemment tous les livres dont je viens de parler qui m'ont permis de peut-être mieux comprendre ce que c'était que la littérature. Et c'est peut-être en cela que la guerre a un rôle à jouer dans la fabrique même du littéraire. D'ailleurs, Norton Crue en parle. Il dit que en fait, le péché des romanciers populaires qui ont fait des succès après la Première Guerre mondiale, genre Barbus ou Dorgelès, c'est d'avoir voulu trop faire produire d'effets littéraires, c'est d'avoir voulu trop faire de la littérature, et pas assez faire preuve de modestie dans le compte-rendu scrupuleux et exact des événements. C'est-à-dire, croyant faire écrivain, ils allaient exagérer les faits dont ils étaient les témoins, au lieu de se contenter de raconter ces faits. Et c'est une tentation qui est, je pense, assez commune à tous les témoins, parce que pour être... En fait, les gens, le public, de façon générale, a tendance à croire que si ça n'est pas spectaculaire, ça n'est pas vrai. Donc il y a beaucoup, par exemple, de rescapés de la Deuxième Guerre mondiale qui ont été obligés soit d'exagérer ce qu'ils ont vécu pour être crus, soit au contraire de réduire la gravité de ce qu'ils ont vécu, parce que sinon ça serait invraisemblable. Donc il y a toujours une question de mesure ou de distance correcte à adopter. Et la morale peut-être de cette affaire-là, c'est qu'il vaut mieux ne plus penser à la littérature, c'est-à-dire ne pas chercher à faire la littérature, pour peut-être en produire. Et c'est pour accepter cette idée-là, il faut en tout cas... c'est aussi cette réflexion-là qui m'a permis de trouver, disons, une nécessité d'enrichir la nécessité de changer de perspective esthétique et d'écrire un livre dans lequel je revendique clairement l'expérience de la guerre civile et je nomme tout ce qui se produit autour de moi et ainsi de suite. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que... Bon, le mélange est assez chaotique. Hein. Bon, ça c'est Beyrouth pendant la guerre, peut-être les dernières années de la guerre. Ça c'est Beyrouth en 90. C'est le centre-ville de Beyrouth. Tout Beyrouth n'était pas comme ça, évidemment, mais c'est le centre-ville.